L'île au trésor par Robert Louis Stevenson, septième cassette, deuxième face, page 166. Je ne tardai pas à m'enhardir et je me redressai pour me mettre à pagayer. Mais le moindre changement dans la répartition du poids produit des changements brutaux dans le comportement d'un coracle. À peine avais-je bougé que le bateau, abandonnant son gracieux mouvement de danse, glissa vivement le long d'une pente liquide si raide que j'en eus le vertige. Puis, au milieu d'une grande gerbe d'écume, il piqua droit dans le flanc de la vague suivante. Trempé et terrifié, je repris aussitôt ma première position. Là-dessus, le coracle, redevenant raisonnable, me conduisit aussi doucement qu'auparavant au milieu des lames. De toute évidence, il ne fallait pas le contrarier, et à cette allure, puisque je ne pouvais absolument pas modifier sa route, quel espoir me restait-il d'atteindre le rivage? En dépit de mon horrible frayeur, je gardai toute ma tête. D'abord, avec d'infinies précautions, j'écopai peu à peu le coracle au moyen de mon bonnet de marin. Écoper, ça veut dire prendre l'eau qui s'est accumulée dans le fond du canot et la rejeter à l'extérieur, le vider de l'eau qui contient. Ensuite, risquant à nouveau un œil par-dessus le plat-bord, je me mis à observer comment mon esquif parvenait à glisser si aisément sur les flots. Je découvris que chaque vague, qui, vue de la terre ou du pont d'un navire, présente l'aspect d'une grosse montagne lisse et luisante, est en réalité exactement semblable à une chaîne de montagnes terrestres avec ses pics, ses plateaux et ses vallées. Le coracle, livré à lui-même, roulant d'un bord sur l'autre, se faufilait pour ainsi dire à travers les régions les plus basses, évitant les pentes raides et les sommets croulants de la vague. « Ma foi, me dis-je, il est évident que je dois rester où je suis afin de ne pas rompre l'équilibre. Mais il est non moins évident que je peux passer la pagaie par-dessus bord et de temps à autre, dans les endroits les plus calmes, en donner quelques coups pour pousser le bateau vers la terre. Aussitôt pensé, aussitôt fait. Couché au fond de mon embarcation, appuyé sur les coudes, je me mis à donner deux ou trois légers coups de pagaie quand l'occasion se présentait pour orienter la proue, c'est-à-dire l'avant, en direction du rivage. C'était un travail très lent et très pénible, mais je gagnais visiblement du terrain. En approchant du cap des bois, je constatai que si je devais inévitablement manquer cette pointe, j'avais pourtant gagné une centaine de yards, de mètres, vers l'est. C'est-à-dire que je me trouvais très près de la terre. Je voyais les cimes des arbres, fraîches et verdoyantes, se balancer au souffle de la brise, et je me sentis sûr d'atteindre le promontoire suivant. Il était grand temps, car la soif commençait à me torturer. L'éclat du soleil dans le ciel et ses innombrables reflets sur les vagues, l'eau qui tombait et séchait sur moi, enduisant mes lèvres même d'une pellicule de sel, se liguait pour me brûler la gorge et m'endolorir le cerveau. La vue des arbres si proches m'avait fait éprouver un désir presque douloureux, mais le courant eut bien vite fait de m'entraîner au-delà de la pointe. Lorsqu'une nouvelle étendue d'eau m'apparut, je vis un spectacle qui changea le cours de mes pensées. L'Hispaniola voguait sur les flots à moins d'un demi-mille droit devant moi, 800 ou 900 mètres. Naturellement, j'étais sûr d'être fait prisonnier, mais je souffrais tellement de la soif que je ne savais trop si cette perspective m'affligeait ou me réjouissait. Bien avant d'en arriver à une conclusion sur ce point, j'éprouvai une telle surprise que je me contentai d'ouvrir de grands yeux, d'un air complètement abasourdi. La goélette naviguait sous sa grande voile et ses deux focs. Les focs, ce sont des voiles triangulaires qui vont du mât d'avant, le mât de misaine, jusqu'au beaupré, un mât à peu près horizontal qui est situé en pointe à l'avant du navire. La belle toile blanche brillait au soleil comme de l'argent ou de la neige. Lorsque mes yeux se posèrent sur elle pour la première fois, toutes ces voiles portaient, c'est-à-dire étaient gonflées par le vent, et elles se dirigeaient vers le nord-ouest. d'où je conclus que les deux hommes à bord avaient entrepris de faire le tour de l'île pour regagner le mouillage. Mais bientôt, le navire se mit à obliquer vers l'ouest, de sorte que je pus croire que les pirates m'avaient aperçu et s'apprêtaient à me donner la chasse. Finalement, elle tomba en plein dans le lit du vent, fut rejetée en arrière et s'immobilisa pendant un moment, les voiles frémissantes. « Quel maladroit !» me dis-je. « Ils doivent être encore ivres morts !» Et je songeais à la façon dont le capitaine Smollett les aurait secoués. La goélette abatta peu à peu, entama une nouvelle bordée, fila rapidement pendant 2 ou 3 minutes, puis s'arrêta net encore une fois en plein dans le lit du vent. Cette manœuvre se renouvela à plusieurs reprises. De ci, de là, en avant, en arrière, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, l'Hispaniola naviguait par brusques élans, chaque bordée se terminant comme elle avait commencé, voile battante. Je compris que personne ne gouvernait. Mais dans ce cas, où se trouvaient les hommes? Ou bien ils étaient ivres morts, ou bien ils avaient abandonné le navire. Dans l'un et l'autre cas, je songeais que si je pouvais monter à bord, je parviendrais peut-être à rendre l'Hispaniola à son capitaine. Le courant entraînait vers le sud à une même allure le coracle et la goélette. Mais cette dernière naviguait de façon si désordonnée, si intermittente, et restait si souvent bloquée dans le lit du vent qu'elle perdait plutôt qu'elle ne gagnait sur moi. Si seulement j'osais m'asseoir et pagayer, j'étais certain de pouvoir la rattraper. Ce projet avait un caractère aventureux qui ranima mes forces, et la pensée du baril de galère près du capot avant redoubla mon courage. Le baril de galère, c'est un tonneau plein d'eau douce, et le capot avant, c'est une espèce de petit toit qui protège le trou qu'il y a dans le pont du bateau et qui sert à protéger contre la pluie ou contre les vagues l'escalier qui descend vers l'intérieur du navire. M'étant redressé, je fus salué presque aussitôt par une gerbe d'embrun. Mais cette fois, je persistais dans ma résolution et j'entrepris avec toute la vigueur et la prudence dont j'étais capable de pagayer à la poursuite de l'Hispaniola en dérive. À un certain moment, j'embarquai un paquet de mer si violent que je dus m'arrêter pour écoper, le cœur battant à tout rompre. Puis, peu à peu, je m'habituai à la manœuvre de mon esquif et je le guidai au milieu des vagues sans autre inconvénient qu'un choc brutal contre l'avant et un jet d'écume en plein visage de temps en temps. À présent, je gagnais rapidement sur la goélette. Je pouvais voir briller les cuivres de la barre du gouvernail, cognant de côté et d'autre, mais pas une âme ne se montrait sur le pont. Il me fallait donc supposer que le navire était abandonné. Sinon, les hommes, ivres morts, dormaient en bas. Dans ce cas, peut-être pourrais-je les emprisonner en condamnant les panneaux, c'est-à-dire en fermant les espèces de trappes qui permettent de rentrer dans le navire, et disposer ensuite du bâtiment comme il me plairait. Depuis un bon moment, l'Hispaniola s'était comportée d'une façon extrêmement fâcheuse pour moi. Elle avait le cap presque en plein sud, se dirigeait presque en plein sud, mais sans jamais cesser naturellement de faire des embardées, des zigzags. Chaque fois qu'elle abattait, c'est-à-dire qu'elle changeait de direction, ses voiles se gonflaient à demi, ce qui l'emmenait aussitôt droit dans le vent. J'ai dit que c'était là une chose extrêmement fâcheuse pour moi. En effet, la goélette avait beau sembler réduite à l'impuissance avec ses voiles claquant comme des coups de canon et ses poulies roulant et cognant contre le pont, elle n'en continuait pas moins à s'éloigner de moi, non seulement à cause de la vitesse du courant, mais encore sous l'effet de sa dérive qui était considérable, c'est-à-dire l'effet du vent sur les voiles. Enfin, la chance me favorisa. Pendant quelques secondes, la brise tomba presque complètement et, poussée peu à peu par le courant, l'Hispaniola tourna lentement sur son axe de manière à me présenter sa poupe, son arrière. La fenêtre de la cabine était encore grande ouverte. La lampe brûlait toujours sur la table. La grand voile pendait mollement comme un drapeau. Sans le courant, le navire serait resté parfaitement immobile. Pendant les derniers instants, j'avais perdu du terrain, mais à présent, redoublant d'efforts, je commençais à nouveau à rattraper la fugitive. Je me trouvais à 100 mètres à peine de ma proie quand il y eut un coup de vent soudain. Les voiles s'enflèrent alors que le bateau était bâbord à mur, c'est-à-dire avec le vent qui venait de la gauche, et il fila de nouveau sur la mer, penché sur le flanc, rasant l'eau comme une hirondelle. Je commençai par m'abandonner au désespoir pour me livrer presque aussitôt à des transports de joie. La goélette vira lentement jusqu'à me présenter son travers. Ensuite, continuant à tourner, elle couvrit la moitié, puis les deux tiers, puis les trois quarts de la distance qui nous séparait. Les vagues, crêtées de blanc, bouillonnaient sous son avant. Vue du fond de mon coracle, elle me parut d'une hauteur démesurée. Alors, brusquement, je commençais à comprendre la situation. Je n'eus guère le temps de penser. J'eus à peine le temps d'agir et de me sauver. Je me trouvais au faîte d'une lame quand la goélette dévala du haut de la lame suivante. J'aperçus le beaupré juste au-dessus de ma tête. Je me dressai aussitôt, sautai en l'air, en voyant le coracle sous l'eau d'un coup de pied. J'empoignai le bout de dehors, c'est un cordage, d'une main, tandis que mon pied se logeait entre l'étai et le bras. Comme j'étais encore cramponné là, tout haletant, un coup sourd m'apprit que la goélette venait de heurter et de broyer le coracle. Désormais, je me trouvais sur l'Hispaniola, sans possibilité de retraite. Chapitre 25. J'amène le pavillon noir, c'est-à-dire j'abaisse le drapeau noir des pirates. À peine m'étais-je installé sur le beaupré que le clinfoc reprit le vent en sens contraire et se gonfla avec un bruit semblable à un coup de canon. Il est donc sur un mât horizontal qui prolonge l'avant du navire, le beaupré, et le clinfoc, c'est un foc, c'est-à-dire une voile triangulaire qui s'attache à l'avant sur le beaupré et par derrière sur le mât de misaine, le premier des trois mâts du navire, mât de misaine, grand mât, mât d'artimon. La goélette trembla jusqu'à la quille, mais un instant plus tard, les autres voiles continuant à porter, c'est-à-dire à être gonflées par le vent, le foc revint à sa position première et pendit inerte. Le choc avait failli me jeter à la mer. C'est pourquoi, sans perdre de temps, je rampai le long du beaupré et dégringolai sur le pont la tête la première. Je me trouvais du côté sous le vent du gaillard d'avant. Et la grand voile, qui portait encore, me cachait une partie du pont arrière. On ne voyait pas une âme. Les planches n'ayant pas été faubertées, c'est-à-dire nettoyées, depuis la mutinerie, gardaient l'empreinte de plusieurs pas. Une bouteille au goulot cassé roulait ça et là, dans les dalots, comme un être vivant. Les dalots, c'est les trous qu'il y a dans la coque du navire et ici dans le bastingage, pour permettre l'écoulement de l'eau. Par exemple, s'il y avait une vague qui venait recouvrir le pont, elle s'écoule par les dalots. Soudain, l'Hispaniola entra en plein dans le vent. Derrière moi, les focs claquèrent avec violence. La barre se mit à battre. Le navire frémissant se souleva si brutalement que j'en eus la nausée. En même temps, le gui du grand mât revint vers l'intérieur de la goélette et la voile, grinçant dans ses poulies, me laissa voir la partie sous le vent du pont arrière. Les deux hommes de garde étaient bien là. Le pirate au bonnet rouge gisait sur le dos, raide comme un bâton, les bras en croix, ses lèvres écartées découvrant ses dents. Israël Hans était appuyé contre le bastingage, le menton sur la poitrine, les mains ouvertes posées devant lui sur le pont et le visage aussi blanc sous son hâle qu'une chandelle de suif. Pendant quelque temps, le navire ne cessa pas de bondir et de faire des écarts comme un cheval rétif. Les voiles se gonflaient tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et le gui se balançait en tous sens, si bien que le mât gémissait sous l'effet de la tension. Le gui, c'est une vergue, c'est-à-dire un grand bâton horizontal qui est tout en bas de la voile. Parfois aussi, une gerbe d'embrun passait par-dessus le bastingage, et l'étrave heurtait lourdement la lame. Bref, Ce grand voilier tenait la mer beaucoup moins bien que mon coracle primitif, toute guingois maintenant au fond de l'eau. À chaque bond de la goélette, l'homme au bonnet rouge glissait d'un côté à l'autre. Mais spectacle effroyable, ce traitement brutal ne modifiait ni son attitude, ni son rictus immuable. À chaque bond également, Hans semblait s'affaisser davantage sur lui-même et s'étaler sur le pont, ses pieds glissant toujours plus loin, tout son corps penchant vers l'arrière. Peu à peu, son visage même me fut caché. Finalement, je ne distinguais plus qu'une de ses oreilles et l'extrémité ébouriffée d'un de ses favoris. En même temps, je remarquai des flaques de sang noir sur le pont autour des deux hommes et je commençai à penser qu'ils s'étaient entretués dans leur fureur d'ivrogne. Tandis que je les contemplais ainsi en réfléchissant, Hans, au cours d'une brève accalmie pendant laquelle le navire demeura immobile, se retourna à demi, puis, poussant un gémissement sourd, parvint à reprendre la position où je l'avais vu tout d'abord. Ce gémissement, qui exprimait une vive souffrance et une faiblesse extrême, ainsi que la façon dont sa mâchoire inférieure pendait, me touchèrent droit au cœur. Mais la conversation que j'avais entendue dans le tonneau de pommes m'étant revenue en mémoire, toute pitié m'abandonna. Je me dirigeai vers l'arrière et m'arrêtai au pied du grand mât. « Je suis venu à bord, monsieur Hans, » dis-je d'un ton ironique. Il promena autour de lui un regard vague, mais il était trop épuisé pour exprimer la moindre surprise. Tout ce qu'il put faire fut de murmurer un seul mot. « Eau de vie !» Je me rendis compte qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Évitant le gui qui balayait le pont une fois de plus, je me précipitai à l'arrière et descendis dans la cabine. Il y régnait un désordre inimaginable. Les pirates avaient éventré tout ce qui fermait à clé, dans l'espoir de trouver la carte. Le plancher était couvert de boue aux endroits où ils s'étaient assis pour boire ou pour tenir conseil, après avoir pataugé dans les marécages autour de leur camp. Sur les cloisons peintes en blanc, ornées de moulures dorées, se trouvaient plusieurs empreintes de mains sales. Des douzaines de bouteilles vides s'entrechoquaient dans les coins à chaque coup de roulis. Un des livres de médecine du docteur était ouvert sur la table. On avait arraché la moitié des feuillets pour en faire sans doute des allumes-pipes. Au milieu de ce chaos, la lampe répandait encore une clarté fumeuse, couleur de terre d'ombre. Je pénétrai dans la cambuse. La cambuse, C-A-M-B-U-S-E, c'est l'endroit où l'on garde les vivres. Tous les tonneaux avaient disparu et un nombre surprenant de bouteilles avait été vidé et jeté sur place. À coup sûr, depuis le début de la mutinerie, pas un seul de ces hommes n'avait dégrisé. En furetant partout, je finis par trouver une bouteille contenant encore un peu d'eau de vie que je pris pour la donner à Hans. D'autre part, je découvris, pour mon usage personnel, du biscuit, des fruits en conserve, une grosse grappe de raisin sec et un morceau de fromage. Je remontai sur le pont, chargé de ses provisions, et posai ma part derrière la tête du gouvernail. Puis, ayant bien soin de passer hors de portée du patron de canot, je gagnai l'avant et me désaltérai longuement au baril de galère. Tu sais, c'est le baril d'eau à boire. Alors, mais alors seulement, je donnai l'eau de vie à Hans. Il dut en avaler près d'une demi-pinte, donc un quart de litre, une pinte, c'est à peu près un demi-litre, avant de retirer la bouteille de sa bouche. « Ah, tonnerre !» s'exclama-t-il. « J'avais bougrement besoin de ça !» Je m'étais déjà assis dans mon coin et j'avais commencé à manger. « Grièvement blessé ?» lui demandai-je. Il poussa un grognement, ou plutôt une espèce d'aboiement, puis il répondit. « Si ce foutu docteur était à bord, je serais remis d'aplomb en un rien de temps. Et vois-tu, j'ai jamais eu de veine dans la vie. C'est ça qui a toujours cloché pour moi. Pour ce que c'est, cette foutue andouille !» ajouta-t-il en montrant l'homme au bonnet rouge. « Il est mort, et bien mort. D'ailleurs, c'était pas un marin. Et toi, d'où c'est que tu sors ? Ma foi, monsieur Hans, dis-je, je suis venu à bord pour prendre possession du bateau. Et jusqu'à nouvel ordre, je vous prierai de bien vouloir me considérer comme votre capitaine. Il me jeta un regard assez aigre, mais sans répliquer un seul mot. Ses joues avaient repris un peu de couleur, bien qu'il parût encore bien mal en point, et continua de glisser et de s'affaler à chaque embardée du navire. À propos, poursuivis-je, je ne peux pas tolérer ces couleurs, monsieur Hans. Ces couleurs, c'est-à-dire ce drapeau, ce pavillon. Avec votre permission, je vais les amener. Il vaut mieux ne pas en avoir du tout. Esquivant de nouveau le gui, je courus aux drisses du pavillon. Les ficelles qui tiennent le pavillon, le drapeau, amenaient leur maudit drapeau noir et le jeter par-dessus bord. « Vive le roi !» dis-je en agitant mon bonnet. « Voici la fin du capitaine Silver !» Le patron de canot me jeta un regard attentif et sournois, le menton toujours baissé sur sa poitrine. « J'imagine, » dit-il enfin, « j'imagine, capitaine Hawkins, que tu aimerais bien maintenant aller à terre. Si on causait, nous deux !» « Ma foi, très volontiers, monsieur Hans. Parlez donc. » Et je continuai mon repas de fort bon appétit. « Ce gars-là, » commença-t-il en désignant le cadavre d'un faible signe de tête, « O'Brien, qui s'appelait O'Brien. Et c'était un sale cochon d'Irlandais. Donc ce gars-là et moi, on a hissé les voiles pour ramener le bateau au mouillage. Mais lui, voilà qu'il est mort à cette heure. Et je vois pas du tout qui c'est qui va gouverner. Si je te donne pas de conseils, t'en seras pas capable, à ce qui me semble. Alors voilà ma proposition. Toi, tu me donnes à manger et à boire, et une vieille écharpe ou un vieux mouchoir pour bander ma blessure. Moi, je t'indique la manœuvre. Ça me paraît régulier pour nous deux. Qu'est-ce que t'en penses ?
Il faut que je vous dise une chose, monsieur Hans. C'est que je ne veux pas revenir au mouillage du capitaine Kidd. J'ai l'intention de gagner la baie du Nord et d'y échouer tranquillement le bateau.
Ça, je m'y attendais, s'exclama-t-il. Après tout, je suis pas complètement idiot. J'y vois clair, non. J'ai tenté ma chance, j'ai perdu, et c'est toi qui as gagné. La baie du Nord, pour sûr, j'ai pas le choix. Oh, mille tonnerres, je t'aiderais tout pareil à naviguer jusqu'au quai des exécutions. Tu peux m'en croire.
Ces paroles me semblèrent assez raisonnables. Nous conclûmes le marché sans plus attendre. 3 minutes plus tard, l'Hispaniola filait vent arrière le long de la côte de l'île au trésor. J'avais bon espoir de doubler la pointe nord avant midi et de louvoyer ensuite jusqu'à la baie du Nord avant la marée haute afin de pouvoir échouer la goélette sans aucun mal en attendant que la marée descendante nous permît de débarquer. Louvoyer, ça veut dire naviguer en zigzag quand on a le vent en face du navire. C'est le seul moyen, puisqu'évidemment, sans ça, on irait à reculons. Il cherche à aller remonter tout le long de la côte ouest, ensuite tourner vers l'est, contre le vent, et échouer le bateau, c'est-à-dire le faire se piquer sur un banc de sable ou sur une plage ou quelque chose comme ça. J'attachai donc la barre et descendis chercher dans mon coffre un fin mouchoir de soie appartenant à ma mère. Je m'en servis pour bander la grande plaie saignante que Hans avait à la cuisse. Après avoir pris un peu de nourriture et avalé 2 ou 3 gorgées d'eau-de-vie, il commença manifestement à se sentir mieux et se tint beaucoup plus droit, parla d'une voix plus forte et plus claire et parut un tout autre homme. La brise nous servait admirablement. La goélette glissait sur les vagues, rapide comme un oiseau. La côte passait devant nos yeux à toute allure et la vue changeait à chaque instant. Bientôt, nous eûmes dépassé les hautes terres et nous longeâmes une région basse et sablonneuse, maigrement parsemée de pins rabougris, que nous dépassâmes peu de temps après pour doubler enfin la pointe rocheuse à l'extrémité nord de l'île. Mon nouveau commandement me transportait d'aise. J'étais ravi par le temps clair et ensoleillé, ainsi que par les différents aspects de la côte. J'avais maintenant de l'eau en abondance et de bonnes choses à manger. Ma conscience, qui m'avait tout d'abord durement reproché ma désertion, était apaisée par l'importante prise que je venais de faire. Je crois que je n'aurais eu plus rien à désirer si Israël Hans n'eût suivi tous mes mouvements d'un regard ironique en arborant perpétuellement un étrange sourire. C'était un sourire qui exprimait à la fois la souffrance et la faiblesse, un sourire hébété de vieillard, mais j'y discernais également un peu de dérision, une ombre de perfidie, tandis que le patron de canot m'observait sans relâche, d'un air rusé, au cours de mon travail. Fin de la deuxième face de la septième cassette, L'île au trésor, par Robert Louis Stevenson, page 176.